J'ai parlé aujourd'hui plus souvent qu'à mon tour, et je ne vais pas tenter de faire un exposé réellement concluant à tous les débats que nous avons eus. C'est simplement une idée que je voudrais injecter dans le débat, parce qu'elle me semble intéressante et trop négligée. Je pourrais intituler ma contribution maintenant « Une suggestion conciliatrice ». Si la théologie est l'intelligence de la foi transmise aux saints, l'intelligence de la révélation, il lui incombe de forger les catégories qui réduisent les tensions qu'on éprouve entre les données bibliques. La théologie évangélique, en effet, croit à l'harmonie de la parole de Dieu. Elle croit que les difficultés, lorsqu'on éprouve une tension, c'est qu'il y a difficulté, que les difficultés naissent des erreurs de lecture et, entre autres facteurs, de l'inadéquation de l'outillage conceptuel. C'est quand les outils intellectuels que l'on manie pour comprendre le texte ne sont pas tout à fait bien adaptés qu'on a une impression d'embarras, qu'on a l'impression que les textes divergent, et il convient donc à ce moment-là de revoir les catégories qu'on met en œuvre. Au fond, la recherche de catégories conciliatrices est une extension de la règle que formulait Pascal sur la recherche du sens qui accorde les contrariétés de tout auteur qu'on étudie. Lorsqu'on a l'impression que l'auteur se contredit, si c'est un auteur de valeur, c'est sans doute qu'on n'a pas compris. Et il faut chercher jusqu'au moment où l'on trouve la bonne interprétation de son langage et de ses façons de penser. Je crois qu'il y a lieu de faire ce travail, ou de tenter l'aventure au moins, à propos du sujet que nous débattons aujourd'hui. Tout à l'heure, et je pense qu'il s'en sera de nouveau question dans l'exposé de M. Somerville peut-être, et dans les débats qui viendront, la question de la distance culturelle entre la situation du premier siècle et la nôtre a été posée, et je pense que c'est un des points sur lesquels le débat doit se poursuivre. Mais même si l'on considère simplement le donné biblique en lui-même, il me semble qu'à première lecture, on est porté à conclure qu'il y a des divergences, des tensions. L'accès de la femme au ministère de la parole et d'autorité, car c'est là le point précis, pas tout le ministère féminin, mais l'accès de la femme au ministère de la parole et d'autorité, semble exclu par les textes de l'apôtre Paul que nous avons lus ensemble, même si l'on tient compte d'attaches éventuelles à des situations particulières, la force restrictive d'un Corinthiens 14 et d'un Timothée 2 reste grande. Les références explicites à la Torah, le lien avec une anthropologie théologique qui ne doit pas être abolie mais assumée dans une sotériologie chrétienne, font exclure les interprétations facilitantes. Et alors, du coup, d'autres données bibliques semblent en tension avec ces textes. Il y a la pratique de Paul lui-même. Il a été fait allusion tout à l'heure au grand nombre de collaboratrices qu'il nomme, en particulier dans le dernier chapitre de l'Épître aux Romains. En gros, un tiers des noms sont des noms de femmes. Et Paul les cite comme les noms de personnes qui l'ont beaucoup aidé. Il est question tout spécialement de Phébé, qui semble avoir eu un rôle très influent, un rôle d'autorité dans l'église de Sancrée. Elle est appelée diakonos, bon, on peut traduire diaconesse si l'on veut. Le terme a sans doute un sens assez vague, mais en plus alors, il y a un terme qui évoque une sorte de présidence ou en tout cas d'influence protectrice. On a parfois voulu traduire protectrice. Il y a Phébé, il y a Priscille. Priscille, qui est généralement nommée avant son mari, qui a joué un rôle important auprès d'Apollos, un rôle de théologienne, et dont Paul certainement, fait l'éloge à qui il rend grand honneur. Il y a peut-être Junie dans la liste de Romains 16. On discute, il est possible que le mot ne soit pas féminin, que le nom ne soit pas féminin, à ce moment-là il s'agirait d'un homme. Mais enfin, autrement, il y a Junie renommée parmi les apôtres. Il y a donc la pratique de Paul, aussi Évodie et Saint-Tiche, dans l'Épître aux Philippiens, des collaboratrices comme Timothée, c'est le même terme. Et puis il y a la pratique de Dieu tout au long de la Bible. Il y a les Déborahs que Dieu a suscitées, et il me semble impossible de dire que ces femmes dont Dieu s'est servi ont exercé des ministères dépourvus de toute autorité. Certes, Déborah n'a pas voulu prendre le commandement de l'armée elle-même, mais c'est quand même bien elle qui a déterminé le cours des choses sous la direction de Dieu. Tension par conséquent. Tension peut-être encore dans les textes même que nous avons étudiés, et la question que posait Mademoiselle de Jong tout à l'heure l'évoquait, entre la prophétie que Paul expressément permet à la femme, et puis l'idée de parole d'autorité. La prophétie a quand même aussi une note d'autorité, il me semblerait assez artificiel de le nier. Alors pour résoudre la tension, voici la proposition que je fais. Il s'agit de remettre en cause le mode de normativité qu'on attribue à l'ordre que Paul affirme. L'ordre qui régit le rapport de l'homme et de la femme, qu'il lit, et je crois personnellement à tout à fait juste titre, dans Genèse 2, l'ordre qui fait de l'homme le chef qu'il fallait de la femme. C'est parce que nous comprenons cet ordre à la manière des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne diras pas de faux témoignages, que la présence de femmes revêtues par Dieu d'autorité nous semble une contradiction. C'est parce que nous comprenons l'ordre avec ce type-là de normativité que nous disons, mais alors là il y a divergence. Et nous sommes tentés soit de refuser Paul, soit de ruser avec son langage et d'exténuer le sens des textes. Or, il est possible de concevoir des modes de normativité différents, c'est-à-dire des façons de déterminer la conduite des hommes qui sont de types divers, analogiquement multiples. Nous distinguons tous entre diverses lois de Dieu, les lois dites de la nature et les commandements du Décalogue, par exemple. Ce sont deux catégories extrêmes de lois divines. Elles correspondent toutes deux à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'on honore père et mère, c'est Dieu qui veut que le corps que vous lâchez en l'air tombe par terre. C'est Dieu qui veut ces lois diverses. Et ces lois déterminent la conduite des hommes, les unes et les autres. Mais très différemment, il y a deux catégories qu'on doit distinguer. Dieu a établi la loi de la gravité, nous y sommes soumis, mais il n'y aurait rien de coupable à tenter de s'en libérer. Et en un sens, par interférence d'autres lois, nous réussissons, en nous envolant pour Paris-New York, à ruser au moins, à annuler pratiquement la loi de la gravité. Les commandements de l'amour, de la justice, de la vérité, au contraire, nous pouvons matériellement les enfreindre sans arrêt, mais ils ont un caractère d'obligation absolue. Il n'y a aucun accommodement, aucune exception qui soit concevable. Pourquoi ? Parce que ces commandements expriment ce qu'est Dieu lui-même. Dieu est juste, Dieu est vrai, il est impossible qu'il mente. Cela, c'est son être éternel même qui se décrit lui-même et qui exige de se refléter dans la conduite des hommes créés à l'image de Dieu. Il n'est pas question d'imaginer la moindre exception. Entre ces deux catégories, donc qui sont très différentes, bien des théologiens ont accepté de loger des ordres créationnels. Ce sujet des ordres créationnels a même été une pomme de discorde entre Barthes et Brunner. Une autre catégorie qu'on a mise entre les deux autres, c'est celle d'institution. La notion d'institution divine a sa place en éthique chrétienne. Malgré les difficultés qu'on rencontre dans le traitement de ces notions, ordre créationnel, institution, il est clair que leur normativité, la manière dont elles obligent les hommes, ne se confond ni avec celle du commandement absolu, ni avec celle des lois naturelles. Dans leur pouvoir de déterminer, il y a une part de contrainte des données de fait, ce qu'il n'y a pas dans le commandement moral. Tu aimeras. Il y a une part de contrainte de données de fait et une part d'obligation pure, ce qu'il n'y a pas dans la loi de la gravité, dans les lois naturelles. Il y a synthèse originale. C'est pas de la même synthèse qu'on a dans les institutions, comme le mariage, ou que l'on a dans les ordres créationnels, comme le travail. Mais il y a, vous voyez, des catégories intermédiaires. Et je suggère qu'en créant l'homme masculin et féminin, en créant l'homme et la femme à cause de l'homme, selon l'expression de Paul, Dieu a institué une catégorie intermédiaire. Il a réparti différemment les goûts et les aptitudes, les tendances et les capacités, ce qui est une différence de fait, une différence relative seulement. C'est du plus au moins. Et simultanément, il a prévu pour les deux sexes des missions qui ne sont pas interchangeables. Il a établi une forme pour la coexistence de l'homme et de la femme, forme qui est évoquée à l'aide de cette image de la tête qu'on trouve sous la plume de Paul. C'est une différence qui réclame la libre obéissance des créatures. Cette répartition, autrefois, j'ai essayé de l'appeler une structure divine, pour distinguer d'institution et puis d'ordre de la création, puisque ce mot a un certain usage spécialisé. J'ai voulu l'appeler structure autrefois, mais vous savez que le mot de structure est mis à tant de sauce aujourd'hui que je n'ose plus l'employer. C'est vraiment un mot un peu trop populaire. Alors je me rabats sur le mot de disposition. Je dirais que nous ne devons pas confondre ce que Dieu a établi avec un commandement moral absolu. C'est une disposition de fait et de vocation. Il y a disposition normative, mais comme elle attache les destinations différentes à des différences relatives seulement, il faut bien voir qu'elle joue comme une armature souple pour l'activité humaine. Ce n'est pas du tout ou rien la rigidité d'un article de code. C'est une répartition, mais avec certaines variations individuelles et historiques. C'est une disposition qui donne un cadre ordinaire au rapport des hommes et des femmes, qui détermine en général une saine orientation, qui engendre ce qui sera la règle, au sens de ce qui sera régulier. Mais la règle, dans sa définition même, envisage des exceptions. C'est dans ce sens qu'on peut dire l'exception confirme la règle. Une loi de commandement divin absolu ne peut pas avoir d'exception. Mais une règle, c'est autre chose. Et une règle peut tolérer des exceptions. Pourquoi Dieu ne ferait-il pas d'exception s'il s'agit de ce que je suggère, une disposition qui répartit les aptitudes et les vocations? Pourquoi Dieu ne serait-il pas libre? Parce qu'il lui plairait ainsi de faire autrement à un moment donné, de changer avec quelques individus les qualifications qu'il a décidé d'accorder aux hommes. Pourquoi ne serait-il pas libre pour montrer précisément sa liberté d'adresser une vocation irrégulière, exceptionnelle? Je ne vois pas où serait l'objection fondamentale à cet égard. Dieu peut très bien interférer avec les répartitions ordinaires des dons et des rôles. De toute façon, les différences ne sont que relatives dans ce domaine. Dieu est libre, alors qu'il confie les ministères d'autorité ordinairement aux hommes, de susciter aussi des Déborah et des Priscille, s'il y a disposition comme je le suggère. Alors je ne dis pas que la disposition ne soit pas normative. Je dis qu'elle joue avec souplesse et avec des exceptions possibles que Dieu peut faire. La disposition est normative. Le féminisme niveleur, égalitaire, méprise la sagesse de Dieu. Parce que c'est bien de Dieu que vient cette disposition. Et c'est pourquoi Paul a dû parler comme il le faisait en face d'un mouvement de ce type à Corinthe et dans le prégnosticisme visé par les pastorales. Un mouvement dont le leadership doctrinal et féminin pour une part très significative, comme l'était, semble-t-il, donc ce prégnosticisme, n'est pas forcément dans l'erreur, mais il y a lieu de se méfier. Il y a lieu d'être d'autant plus vigilant, puisqu'il y a là un certain renversement de la disposition divine originelle. Cependant, le champ est libre, non seulement pour des ministères très divers, qui seraient non pas des ministères de l'autorité enseignante, mais des ministères d'autres types, nous n'avons pas voulu en parler spécialement aujourd'hui, mais le champ est libre quand même pour des exceptions que Dieu suscite comme il lui plaît. Voici la suggestion que je lance.
Merci beaucoup. Maintenant, nous entendrons M. Somerville.
M. Crèche disait tout à l'heure que sa tâche n'était pas la plus facile, je ne suis pas sûr que la mienne le soit aussi. Nous avons vu beaucoup de choses, entendu différents exposés, il s'agit d'essayer de tirer des conclusions pratiques. Autrement dit, je dois essayer de répondre à la question que posaient les Juifs aux apôtres le jour de la Pentecôte, « Hommes, frères, que ferons-nous » J'ajouterai simplement « Femmes, sœurs ». Et je voudrais essayer justement dans cette masse d'aperçus que nous avons pu recevoir aujourd'hui, de trouver quand même un fil directeur qui nous aide dans la recherche de conclusions pratiques. Et il me semble que ce fil directeur est tout simplement le fait que la foi en Jésus-Christ introduit une nouveauté radicale dans toutes les relations humaines. Quand Paul écrit, dans le texte de l'Épître aux Galates qui a été étudié ce matin, « En Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni libre », il prononce là une parole proprement révolutionnaire. Il amène donc les chrétiens à une mentalité, à une conception du monde et de leur vie, et par conséquent à un comportement pratique qui est vraiment non conformiste à l'égard du monde ambiant. Et il me semble que dans ce domaine des relations entre l'homme et la femme dans l'Église et de la place de la femme dans l'Église, nous devons, nous aussi, nous efforcer de suivre l'exhortation de Paul aux Romains lorsqu'il dit « Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et la volonté de Dieu, je crois, est bonne, agréable et parfaite pour les hommes et pour les femmes. Il est clair que dans la première Église, dans le fait que les femmes comme les hommes, ou les esclaves comme les hommes libres, sont appelées à la réconciliation avec Dieu, à faire partie d'un même peuple, d'un même corps, au même titre, par un même salut, il est clair qu'il y a là quelque chose qui bouleverse, qui change la place que l'on donne à la femme. Et quelques-uns des problèmes qui ont pu être évoqués, que Paul traite dans ses épîtres, viennent précisément de ce que déjà un changement radical est intervenu par rapport au judaïsme, par exemple. Le fait que le problème se pose de savoir si les femmes vont pas prendre la parole en public n'est possible que si les femmes sont là avec les hommes dans l'assemblée chrétienne. Dans la synagogue, elles étaient à part et la question ne se posait pas. Ceci nous montre que la découverte d'un des changements qu'entraîne l'Évangile pose un certain nombre de problèmes pratiques par rapport à des pratiques anciennes, par rapport à des coutumes, à des habitudes, à des traditions, mais aussi par rapport à une certaine mentalité qui est celle de chacun d'entre nous, car nous participons tous à la mentalité du monde dans lequel nous vivons. Nous partageons tous les stéréotypes, les modèles culturels de la société qui est la nôtre. Et il est évident que nous avons pu le voir dans différents exposés, que l'apôtre Paul tient compte de ces modèles culturels, et la question se pose de savoir, nous l'avons vu aussi, jusqu'où lui-même est influencé, et quelle est la part qu'il leur accorde. Ce qui est sûr, en tout cas, dans cette question de la distance culturelle, c'est que nous ne sommes pas arrivés à des conclusions unanimes, totales, mais je crois que nous pouvons être d'accord sur un point. C'est que l'Évangile signifie dans les relations entre les hommes et les femmes, et en ce qui concerne la place de l'Église, de la femme dans l'Église, la fin d'une certaine discrimination qui est mépris de la femme, qui consiste à faire de la femme un être mineur, c'est-à-dire un être qui n'a pas de responsabilité vraie. Et nous reviendrons là-dessus à propos du problème de la soumission. Aujourd'hui, ce qui est changé, c'est que toutes les relations au sein de l'Église, entre esclaves, libres, grecs, juifs et quelque autre catégorie que ce soit, et en particulier entre les hommes et les femmes, doivent être dominées et éclairées par l'amour que Dieu nous a témoigné, par l'agapé. La relation entre l'homme et la femme a été brisée par la chute. Ceci a été évoqué également. Et une des formes que prend cette cassure, c'est la domination de l'homme sur la femme. Cette domination, je crois, dont parle Genèse 3,16, c'est autre chose que l'autorité de l'homme sur la femme. Je pense que nous reviendrons là-dessus, autorité n'implique pas domination dans le sens de Genèse 3,16. Et la question que je voudrais poser d'abord, c'est donc de savoir dans quelle mesure notre pratique aujourd'hui est elle-même conditionnée par un certain nombre de stéréotypes culturels, de traditions du monde dans lequel nous vivons, ou du monde dont nous avons hérité. Parce que j'ai souvent entendu dire, à propos des ministères féminins, que si on en parle aujourd'hui, c'est par conformisme au monde, puisque dans le monde, il y a un mouvement d'émancipation des femmes. Le MLF, pour ne pas le nommer, en France. Mais nous pouvons, et je crois que le problème est très réel. J'ai très nettement l'impression, par exemple, comme vous avez pu le sentir à la lecture du livre de Jean-Marie Aubert, qu'il y a un certain souci de se couler dans le moule dominant de la culture des intellectuels, en tout cas aujourd'hui. Le problème est très réel. Mais le problème est non moins réel de savoir si dans nos pratiques traditionnelles, nous ne sommes pas nous-mêmes tributaires d'un conformisme à un monde qui est en train d'évoluer, qui est un monde passé, mais qui n'en est pas moins le monde. Je dirais de la même façon, si vous voulez, que dans le domaine du vêtement ou de la mode, le fait de suivre la mode est certainement un conformisme, mais le fait de se tenir attaché par obligation au complet cravate, c'est également un conformisme à une certaine mode, qui est peut-être aussi en voie de disparition dans certains endroits, même si aujourd'hui je la suis encore. Il faut bien reconnaître que un des problèmes concrets, c'est le fait que nous sommes rarement conscients de nos conformismes. Nous ne sommes pas conscients des pressions exercées par le monde dans lequel nous vivons. Nous y baignons depuis la petite enfance, nous avons appris cela, nous vivons cela constamment, et ça nous paraît naturel. Et on utilisera souvent l'argument naturel. Je pense ici à une personne âgée en particulier qui, pour terminer chaque démonstration, dira « c'est naturel, n'est-ce pas ?» Les choses nous paraissent facilement naturelles. Or, je voudrais dire ceci, il me semble que les relations entre hommes et femmes dans l'Église aujourd'hui et la place que l'on accorde aux femmes dans l'Église sont tributaires non seulement de l'enseignement biblique, mais aussi de l'interprétation qui a été donnée au cours de l'histoire de cet enseignement et des traditions ecclésiastiques qui ont suivi. Et il me semble que ces traditions ecclésiastiques ont très nettement été influencées, ou je dirais, même dans une certaine mesure, un petit peu déformées par une accentuation qu'on trouve assez vite chez les pères de l'Église, et qui est la suivante. L'apôtre Paul parle à la fois d'une liberté nouvelle qui est donnée à tous en Jésus-Christ, y compris aux femmes. Et ce que citait M. Henri Blocher tout à l'heure du nombre de collaboratrices, qu'il appelle vraiment synergus, collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi, hommes ou femmes. montre que l'apôtre Paul lui-même accordait une certaine place à la femme. Cette liberté s'exerçait dans la vie de l'Église. Mais en même temps, il ne fait pas de doute, dans les différents textes qui ont été étudiés, que l'apôtre Paul place une limite. Nous pouvons discuter pour savoir quelle est la part culturelle de cette limite, quelle est la part fondamentalement théologique et irréductible. Et nous ne serions peut-être pas d'accord entre nous. Mais le fait reste qu'il y a d'une part une liberté nouvelle, d'autre part une limite. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans la plupart des... dans beaucoup de textes de pères de l'Église et de théologiens du passé, mais aussi de ce que disent beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs aujourd'hui, on met l'accent sur la limite et on a oublié, disons, dans le passé, on a mis l'accent sur la limite et on a oublié l'ouverture. Voyez-vous ? Je crois qu'il y a eu là une déformation historique qui a contribué, amené l'Église, si vous voulez, à retomber dans un certain nombre de stéréotypes qui étaient davantage ceux du judaïsme et du monde païen que ceux de l'Église du premier siècle. Et le résultat me semble être qu'aujourd'hui encore, la femme n'apporte pas à l'Église de Jésus-Christ toute la richesse que l'on pourrait attendre d'elle. Je me permets de citer ici deux ou trois lignes d'un article du docteur Marthe Ropp, qui est un médecin mennonite, qui disait par exemple lors d'une rencontre d'église importante, il y a eu une table ronde, différents représentants sont consultés, et aussi des jeunes gens, des adolescents, mais il n'est pas utile de consulter des femmes, que la femme se taise. Le résultat c'est que certaines femmes acceptent de se limiter dans des tâches qu'on pourrait dire mineures, parce qu'elles acceptent les traditions telles qu'elles sont reçues dans leur église, et ne donne pas tout ce qu'elle pourrait donner. Dans d'autres cas, le résultat peut être une sorte de rébellion, un désir d'aller plus loin. Dans beaucoup de cas, c'est une certaine gêne, parce que il se crée au fond une mentalité qui fait que la femme a peur d'être critiquée. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'elle n'osait pas intervenir, mais qu'elle intervenait auprès de son mari après coup. Je crois que c'est vrai de beaucoup de femmes. Évidemment, c'est un petit peu, on pourrait penser ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, mais aujourd'hui, est-ce que la question n'est pas quelquefois plutôt d'amener des femmes à s'exprimer parce qu'elles ont pris l'habitude de se taire là où elles pourraient apporter quelque chose d'utile, plutôt que de les faire taire parce qu'elles n'arrêtent pas de parler dans l'église? Il y a peut-être des exceptions comme partout ailleurs. Mais un des résultats possibles, et que j'ai plusieurs fois remarqué, c'est que la femme qui n'a pas le droit de parler dans l'église se rattrape à la maison. Et que l'autorité du pasteur dans son église est en fait parfois soumise à une autorité supérieure chez lui. Ce que je veux dire ici, je ne veux pas généraliser, mais ce que je veux dire ici, c'est que là, l'apport que quelqu'un pourrait donner n'est pas facilité ou reconnu lorsque une barrière est mise. Eh bien, quelque chose risque de sortir ailleurs, d'une manière qui ne sera pas officielle, qui ne sera pas reconnue et qui sera moins positive. Nous sommes donc arrivés dans l'Église, je crois, un petit peu comme dans le monde, à créer des stéréotypes qui voient l'homme et la femme comme deux êtres tout à fait différents, avec des tâches totalement différentes. Bon, la femme ne parle pas dans l'Église, nous reviendrons là-dessus, mais par contre, elle fera la vaisselle. Ça, c'est son travail. C'est le travail des femmes, c'est pas le travail des hommes. Or, pour prendre un terme biblique, celui de diakonos, de diacre, c'est le même mot qui est employé pour les femmes comme pour les hommes. Nos traductions disent diakonesse, moi je ne suis pas très heureux de l'emploi du terme de diakonesse dans les traductions, alors que le grec a le même terme de diakonos pour les deux, c'est diacre, parce que la traduction diakonesse suggère qu'il s'agit d'un autre ministère que celui des diacres. Il y a donc un certain nombre de tâches qui sont réservées aux femmes, les femmes à la maison, l'éducation des enfants sera l'affaire des femmes, et nous arrivons à ce paradoxe, c'est que autant les psychologues et les éducateurs nous apprennent que les enfants ont absolument besoin d'une présence masculine dans leur éducation, autant beaucoup d'hommes en arrivent pratiquement à s'en décharger totalement sur leurs femmes, et à ne plus s'occuper des affaires d'éducation parce que c'est les affaires des femmes. C'est ce qui se passe dans le monde, par exemple dans le métier d'institutrice. On trouve pratiquement plus d'instituteur homme. Là, je crois que c'est un stéréotype. Il y a telle tâche, ça appartient aux femmes. Point final. L'homme, au contraire, alors, est vu comme le protecteur, l'homme fort dont la place n'est pas à la maison. C'est d'ailleurs assez paradoxal de représenter encore aujourd'hui l'homme comme un protecteur dans une société où il est surtout protégé. Mais il y a quand même cette idée de l'homme viril qui doit s'imposer, qui doit se dépasser, dont, chez qui l'agressivité est parfaitement normale, alors que la femme est douce. Dans le livre de... son nom m'échappe, France Quéré, La femme à venir, elle montre qu'on a trop privilégié les valeurs masculines, les valeurs de force, d'agressivité, et considéré avec un petit peu de mépris les valeurs féminines. Mais je ne suis pas tellement d'accord avec elle là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il s'agisse bibliquement de valeurs féminines. La douceur est une valeur chrétienne qui devrait être tout aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Et il n'y a donc pas des tâches réservées à ceux qui sont virils et qui enfoncent les portes, et des tâches réservées à ceux qui sont doux, ou douces plus exactement, et qui restent à leur place. Ceci dit, lorsque j'ai parlé de ces stéréotypes entre hommes et femmes, je veux dire que la culture, l'histoire, a tendance à durcir et à figer des réalités qui n'en sont pas moins des réalités. Il y a une différence entre l'homme et la femme. M. Henri Blocher nous rappelait que Dieu les a créés différents, leur a donné des aptitudes différentes. Mais il a aussi souligné que ces aptitudes étaient relatives, qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui est coulé dans le bronze d'une manière automatique. Et la différence, il serait grave de vouloir la supprimer. Je crois que c'est une des tragédies des mouvements féministes aujourd'hui, de dire comme Jean-Paul Sartre par exemple, que les femmes peuvent réussir tout comme des hommes. Je ne pense pas que ça doive être là l'ambition des femmes. La différence existe, et il y a des choses que les hommes n'arriveront jamais à faire comme les femmes. Mettre des enfants au monde en particulier. Ces différences sont voulues par Dieu, ces différences, je crois, sont nécessaires à la communion de l'homme et de la femme. Dieu a donné à l'homme une aide, et tout à l'heure je crois que c'est M. Dumas qui rappelait le sens du mot aide, qui est fort, qui n'est pas simplement une assistante, quelqu'un à qui on fait appel quand on en a besoin. Hein. Une aide semblable à lui, et pourtant différente. Et la traduction exacte du texte de la Genèse au chapitre 2 dit « une aide comme un vis-à-vis ». La Tob et les traductions modernes disent une aide qui lui soit accordée. Voyez-vous, la femme n'est là que pour l'homme. Ça n'est pas tout à fait exact. Comme un vis-à-vis, ça signifie qu'elle a son existence, sa valeur propre en elle-même. Il y a une différence. Et cette différence est nécessaire pour la communion entre l'homme et la femme. Il ne s'agit pas de niveler, de prétendre que toutes les tâches sont interchangeables. Mais il s'agit de s'interroger sérieusement sur les conceptions que nous avons pour savoir si elles sont conformes aux différences voulues par Dieu ou si elles ne sont pas les produits de différences héritées des siècles. Alors je voudrais dire trois choses qui je crois nous aideront à voir un petit peu clair dans notre pratique de la place que nous donnons à la femme dans l'Église et qui est la sienne que Dieu lui accorde. Le premier terme que j'emploierai sera celui de solidarité. L'homme et la femme sont solidaires dans l'Église de Jésus-Christ, membres d'un même corps et ensemble appelés à travailler pour Jésus-Christ. Le terme qu'emploie Paul pour ses collaboratrices de sum ergus, œuvrant avec lui, est ici un terme fondamental. Il doit y avoir dans l'Église un partage des responsabilités qui fait que même lorsque doit être préciser l'autorité de l'homme, comme le fait l'apôtre Paul dans un certain nombre de textes, il ne considère pas la femme comme une mineure. On nous l'a rappelé tout à l'heure aussi, la soumission de la femme n'est pas quelque chose d'automatique, c'est une responsabilité morale. Une responsabilité, c'est-à-dire, ça appelle à une décision de sa part. La soumission implique un choix, une décision. C'est pas quelqu'un qui fait ce que je te dis et tais-toi. C'est donc une collaboration dans l'Église qui fait que la femme, à côté de l'homme, travaille ensemble avec lui à l'œuvre du Seigneur. Elle n'est donc pas simplement l'assistante de l'homme pour faire ce qu'il n'a pas temps de faire. Je crois par exemple qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans l'idée que, bon bien, une femme sera la secrétaire du pasteur, et puis elle fera le ménage de son bureau, ou différentes choses comme ça, comme une sorte de prolongement, mais c'est l'homme qui fait le travail, voyez-vous. Elle lui apporte justement des éléments qui lui permettront de le faire. Ça peut exister, comme un homme peut être secrétaire d'un pasteur d'ailleurs, bien entendu. Mais la femme ne doit pas être considérée simplement pour l'aide qu'elle apporte, même si elle est une aide. Elle n'est pas aide simplement dans le sens de domestique, voyez-vous. Elle aide dans un autre sens, elle aide en tant que vis-à-vis, ce qui est tout à fait différent, me semble-t-il. Et je crois que c'est toujours, je crois, contraire à l'Évangile et à la vision biblique de la femme, de ne considérer la femme qu'en fonction de telle ou telle chose qu'on attend d'elle. Je dois dire, on ne doit pas, par exemple, épouser une femme pour qu'elle soit la mère de ses enfants, mais parce qu'on l'aime, elle, en tant que personne, en tant que femme. Ou pour qu'elle soit notre cuisinière, ce qui est aussi une autre utilisation possible. Mais d'un autre côté, cette notion de solidarité me paraît signifier que la femme ne doit pas revendiquer une égalité de manière agressive au sein de l'Église. Elle peut quelquefois être amenée à exposer que les limites qu'on lui impose ne sont peut-être pas celles qu'elle comprend dans la parole de Dieu. Mais la revendication agressive, et j'hésite pourtant à dire, je vais vous dire pourquoi, la revendication agressive n'est pas le rôle le plus utile qu'elle puisse jouer. J'hésite à le dire pour la raison suivante, c'est que ce n'est pas aux hommes de le lui dire. Que l'autorité de l'homme, voyez-vous, ne me paraît pas consister à dire à la femme, reste à ta place. Parce que ça n'est plus la solidarité, à ce moment-là. La place de la femme, on nous a dit, c'est la tranquillité, ça consiste à ne pas se mettre en avant, mais il me semble que ces exhortations à ne pas se mettre en avant sont aussi données à des hommes dans le Nouveau Testament. En pratique, l'empêchement à cette véritable solidarité dans l'Église n'est pas tellement théorique. Je crois que beaucoup de chrétiens diraient « mais nous sommes heureux que les femmes soient nos collaboratrices ». Et le docteur Marthe Kopp écrit à cet égard à nouveau les chrétiens disent « mais nous respectons les femmes, elles ne sont pas des inférieures chez nous ». Il ajoute « eh bien mon frère, il faut soi-même être femme et célibataire, et je ne suis ni l'un ni l'autre ». Mais je répète ici, pour connaître toute cette discrimination réelle, et cela au nom de la Bible. Le renoncement n'est pas théorique, mais pratique. C'est plutôt une question de mentalité qu'on a reçue, que dont on a hérité. Je lisais récemment, dans un compte-rendu du livre de Marcel Edrich, le livre qu'il vient de publier, l'homme de radio, à propos de sa mère. Elle craignait Dieu plus qu'elle ne l'aimait, c'eût été lui manquer. Obéir, accepter, se soumettre. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu inculqué justement à la femme cette idée qu'elle doit craindre l'homme plus qu'elle ne l'aime? Obéir, accepter, se soumettre. Et ceci nous amène alors à la question qui a été soulevée tout à l'heure et à laquelle je disais que je voulais répondre, c'est la notion d'autorité, de domination et de soumission. Et je voudrais ici partir d'un texte qui a déjà été cité tout à l'heure par André Dumas, Éphésiens 5, à partir du verset 21. L'exhortation à la soumission adressée aux femmes fait partie d'une exhortation à la soumission mutuelle qui est adressée à tous. Éphésiens 5, 21, « Soyez soumis ou soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Et Paul continue en disant « Vous les femmes à vos maris. » Le fait est qu'il ne répète même pas le verbe « être soumis » dans le texte grec. Il se continue dans sa lancée, « Soyez soumis les uns aux autres, vous les femmes à vos maris. » Ce qui montre que la soumission qu'il demande aux femmes n'est pas quelque chose d'exceptionnel qui leur soit limité. D'autant plus que dans le chapitre, dans le paragraphe suivant, enfin pas le suivant, mais celui d'après, qui parle des maîtres et des serviteurs, il dit encore, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres. » Et ensuite, il s'adresse aux maîtres pour dire, « Et vous, maîtres, agissez de même, de la même façon, envers eux. » Ceci nous montre que la soumission dont parle Paul ici, et son envers qui est l'exercice de l'autorité, c'est autre chose que ce que le monde imagine. C'est quelque chose de nouveau. Et je crois que c'est là que le nouveau devrait se manifester dans les relations entre les hommes et les femmes dans l'Église. C'est vrai, l'apôtre Pierre le dit de la même façon d'ailleurs aux anciens de l'Église. Au chapitre 5 de sa première lettre, il leur dit de, il leur parle de leur responsabilité d'anciens, et il leur dit de paître le troupeau de Dieu qui leur est confié, le surveillant non par contrainte, non pas, ici à la Bible de Jérusalem traduit, en faisant les seigneurs à l'égard de ceux qui vous sont échus en partage, ou en dominant ceux qui vous sont échus en partage, mais en devenant les modèles du troupeau. Et de la même façon, il me semble que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, demande aux hommes, aux maris, d'être les modèles de la famille, puisqu'ils doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Or, comment Christ a-t-il aimé l'Église? Eh bien, dans ce passage même, et dans bien d'autres textes, on nous dit « en se faisant le serviteur des hommes », en se consacrant à la rendre pure, belle, en ne cherchant pas comme une proie à arracher l'égalité avec Dieu, dira Paul aux Philippiens, mais en prenant la forme d'un serviteur jusqu'à la mort. Et le texte qui me semble éclairer le plus cette relation de soumission-domination avec celui d'Éphésiens 5, c'est peut-être ce passage de l'Évangile, qu'on trouve dans trois évangiles, mais où les disciples parlent de la prééminence, la première place. Qui a la première place? Qui a l'autorité? Qui peut dominer sur les autres? Et où Jésus dit, vous savez ce qui se passe dans ce monde. Les grands de la terre, et j'ai tendance à traduire de la façon suivante, les grands de la terre prennent, font sentir leur pouvoir sur les peuples, font sentir leur autorité. Quelquefois, on traduit même abuse de leur autorité. Je crois que l'idée, c'est un peu faire sentir leur pouvoir, leur autorité. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais que celui qui veut être le plus grand se fasse le serviteur des autres. Et je crois que ceci s'applique de façon très particulière à l'autorité de l'homme sur la femme. Ça n'est pas tellement un droit de disposer de l'autre, comme on le comprend dans le monde, mais c'est beaucoup plus une responsabilité à l'égard de quelqu'un qui s'exerce par un service. Et la soumission, alors, ne signifie pas la résignation, le fait d'être bête et discipliné, comme on a cherché à m'apprendre à l'être dans l'armée. On a peut-être réussi pour la bêtise, on n'a pas réussi pour la discipline. La véritable soumission, je crois, consiste à reconnaître la responsabilité de l'autre qui lui confie une autorité. Car sans responsabilité, il n'y a pas d'autorité. Et à l'aider à vivre et à exercer cette responsabilité, sans prétendre la prendre pour soi, sans se mettre en avant, sans essayer de grimper à l'échelle pour dominer l'autre. Il n'est donc pas question de supériorité ou de hiérarchie. Il n'y a pas une supériorité de l'homme sur la femme. Il y a une responsabilité qui est confiée à l'homme et qui lui donne une autorité. Et là, il ne faut absolument pas essayer de revenir en arrière. Il faut accepter, c'est quelque chose d'extrêmement important, que cette responsabilité, c'est pas d'ailleurs le plus facile. Une responsabilité donne une autorité, mais je vois dans toutes sortes de domaines, lorsque vous cherchez des gens, hommes ou femmes, à associer à certaines responsabilités, par exemple dans un groupe de travail, la plupart des gens se défilent, parce qu'ils savent très bien que l'autorité ne va pas sans une responsabilité qui est quelquefois lourde à porter. Et si elle est bien vécue, la responsabilité de l'homme dans le couple et dans l'Église, c'est pas quelque chose à envier, mais quelque chose où l'homme a besoin d'être aidé pour la vivre autrement que comme une domination, mais comme un véritable service. Et ce que nous avons vu au début dans la solidarité, ça signifie que la femme aussi a une responsabilité. Même si elle n'a pas une autorité sur l'homme, elle a une certaine autorité. C'est vrai aussi dans le couple. André Dumas citait ce verset d'1 Corinthiens 7. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est le mari, mais il y a la réciprocité. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Il y a réciprocité. Ce qui ne veut pas dire égalité. Ça ne veut pas dire que les deux sont interchangeables. Mais ça veut dire qu'à aucun moment, l'un des deux devient un objet que l'autre peut manipuler à sa guise et qui n'a rien à dire. Je crois que d'ailleurs c'est la même chose en ce qui concerne les enfants, et c'est très exactement la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux parents: Père, n'irritez pas vos enfants. Ils doivent exercer l'autorité en les instruisant et en les châtiant même, mais pas comme des objets dont ils disposent, mais comme des vis-à-vis qu'ils doivent écouter aussi, même si ce sont eux qui ont le dernier mot. Enfin, le dernier thème, la dernière piste que je voudrais indiquer, elle est au fond résumée dans le mot confiance. Si la femme est appelée à être collaboratrice, à ne pas être une mineure irresponsable, mais quelqu'un qui peut prendre des responsabilités, il faut apprendre à lui faire confiance. Et dans le contexte actuel, souvent, de nos églises, apprendre à avoir confiance, à oser s'exprimer lorsqu'elle ne sort pas de son rôle. Alors, là, évidemment, nous pourrions discuter sur la limite en ce qui concerne la parole accordée aux femmes. La question a été posée tout à l'heure, et M. Kreis a donné une réponse, puisqu'il exclut, d'après 1 Timothée 2, très clairement l'enseignement qu'il comprend comme la prédication. Je ne suis pas entièrement convaincu que le terme didaskein ici exclut toute forme d'enseignement à la femme. Et je ne m'excuse, mais je ne vois pas de façon très claire en quoi l'usage du terme didaskein nous oblige à considérer que ça signifie la prédication. Il y a des cas dans le Nouveau Testament où on voit des femmes enseigner. Priscille, citée la première, et Aquila ont enseigné un homme comme Apollos, qui n'était pourtant pas le premier venu. Les veuves anciennes sont appelées à enseigner les plus jeunes. On pourrait donc discuter exactement sur la limite. Je crois qu'elle existe. Et je n'ai pas de réponse à vous donner là-dessus. Mais je crois que tant qu'on ne dépasse pas cette limite, il faut plutôt aider les femmes à exercer la responsabilité qui peut être la leur, qu'on la reconnaît bien souvent comme monitrice d'école du dimanche, par exemple, c'est aussi un enseignement. Qu'on la reconnaît souvent sur le champ de mission, ce qui peut paraître grave parce que ça semblerait signifier que les Africains sont des mineurs puisque les femmes européennes ont le droit de les instruire. Ça me paraît très très grave comme attitude. Il faut aider les femmes, comme les hommes au sein de l'Église, à rechercher les aptitudes que Dieu leur a données, les dons que Dieu leur a accordés, les aider à les développer, non pas dans un moule coulé d'avance, les femmes faisant la vaisselle et les hommes restant bavardés après le repas, comme ça arrive encore très souvent, mais suivant les possibilités qui leur sont données. Tout à l'heure, on nous a rappelé aussi que l'apôtre Paul demande aux femmes de ne pas exclure la maternité, que ça fait partie de leur vocation. Et cette vocation peut, dans certains cas, exclure d'autres services que Dieu pourrait leur confier. Mais la maternité ne doit pas non plus être une prison dans laquelle une femme est enfermée toute sa vie. Aujourd'hui en particulier, où l'espérance de vie est beaucoup plus grande, une femme peut être libérée de ses tâches maternelles et avoir encore devant elle quantité d'années de service possible sans être une veuve. Parce que l'apôtre Paul reconnaît aux veuves une place importante dans l'Église, parle même d'un ordre de veuves, de femmes qui, étant libres, disponibles, plutôt que de rester à la maison, comme c'est la place de la femme, viennent se consacrer au service des autres dans l'Église. Ce qui est dit des veuves, là, je crois, peut s'adresser à d'autres femmes, suivant leur disponibilité. Et le fait que des femmes aient été appelées diacres au masculin, au même titre que les hommes, montre que la première Église cherchait donc à leur donner une place d'utilité qui n'a strictement, évidemment, rien de méprisable ici. Alors, je ne suis pas en mesure de dire, d'abord parce que dans certains domaines je m'interroge encore moi-même. Nous avons pu voir que des spécialistes sur les textes ne nous ont pas donné une réponse absolument univoque à certaines des questions que nous nous posons, mais je crois que ces trois éléments là sont fondamentaux: la solidarité, l'autorité soumission qui n'est pas domination résignation, qui n'est pas, pour reprendre alors une phrase d'un livre d'André Dumas, ça n'est pas l'exercice d'un pouvoir, mais d'une autorité, c'est différent. Et je définirais peut-être l'autorité comme le droit d'être écouté. Et en dernier lieu, la confiance que l'on accorde aux femmes pour les aider à développer les aptitudes et les dons que Dieu a pu leur donner.